Un bon boulot, témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail. Y a-t-il des bons boulots ? Qu'est-ce qui caractérise un bon boulot ou au contraire un sale boulot ? Épanouissement, reconnaissance, insertion sociale, créativité, maîtrise d'un métier, sentiment d'utilité ou bien aliénation, émiettement du travail, perte de sens, management toxique, burn-out, dépression. Qu'est-ce qui fait la différence ? Le travail lui-même, ses conditions d'exercice ou les possibilités offertes à une personne de s'y investir et d'y gagner une certaine autonomie. Le sujet est vaste et délicat quand il s'agit de témoigner. Nous parlerons métier et nous aborderons les raisons pour lesquelles un individu s'épanouit dans son travail. Nous chercherons aussi à comprendre sous quelles conditions un bon boulot pourrait être dévalorisé et devenir parfois un sale boulot. Aujourd'hui, nous recevons Mathieu Le Gall, photographe auteur professionnel. Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Pourriez-vous vous présenter et esquisser le parcours qui vous a conduit à exercer le métier de photographe-auteur ?
Alors, je m'appelle Mathieu Le Gall, j'ai 41 ans. J'ai une formation de graphiste décorateur, peintre. Formation que j'ai commencé en 98, qui a duré 2 ans. J'ai fait une formation complémentaire par la suite de décor peint en trompe-l'œil.
Voilà, vous avez mis une quinzaine d'années depuis le début, votre première, enfin c'est pas votre première photo, mais enfin le moment où vous avez quand même acheté un appareil modeste, mais qui pouvait faire des photos, jusqu'à 15 ans plus tard, où vous déposez les statuts d'une entreprise de photographe. Et vous m'avez montré une fresque là, où à chaque fois, sur 15 ans, il s'est passé quelque chose d'important, un concours, une expo, je ne sais pas.
Des paliers, quoi.
Ouais, voilà, qui à chaque fois vous ont conduit à un réseau social plus grand, à plus de connaissances, à un autre appareil, à une autre technique et à une reconnaissance qui va croissant. Est-ce qu'on pourrait reprendre rapidement ces étapes ? Parce que c'est intéressant de voir comment quelqu'un d'amateur devient un photographe professionnel.
Donc ça commence par en 2002 l'achat d'un appareil pour le loisir. Je vais faire des photos d'un peu de tout. J'essaye l'appareil, j'essaye les réglages. À partir de là, je vais commencer à poser quelques photos sur les réseaux sociaux. Sur DeviantArt, je ne vais pas donner mon pseudonyme parce que les photos y sont encore, mais c'est vrai que ça reste, reste des essais, on va dire.
Et on ne le donnera pas. Hein. Mais dès le début, quand même, vous fouillez dans les possibilités techniques de l'appareil et vous posez les questions de montage, etc.
Ouais. En fait, je vais commencer à transformer. J'ai des photos de copains, par exemple, et je vais les transformer en zombies, des choses comme ça.
On a été un peu vite sur votre formation initiale et votre boulot initial, quand même. C'était, je reviens là parce que vous parlez de montage.
Bah, c'est vrai que c'est ça le commencement, en fait.
Vous avez travaillé sur le trompe-l'œil, sur la décoration.
Le travail de peintre en lettres. Donc, c'est apprendre les polices de caractère, les redessiner et les peindre à la main. Donc, c'est un métier qui est devenu très rare. Et ça va durer 2 ans. Et après, donc, je pars sur une formation de peintre décorateur en trompe-l'œil. Donc là, c'est une année de formation sur les techniques de l'aérographe et les techniques d'imitation des matériaux. Donc, en fait, ça va être imiter la réalité à travers les techniques de peinture.
Et dans le même temps, sur ce métier-là, vous commencez aussi à vous familiariser avec...
avec la lumière et avec l'incidence de la lumière sur les volumes.
Et la machine informatique. Enfin,
la machine, ça va arriver
plus tard.
Quand même après, okay.
Excusez-moi, je vais trop vite. Ouais.
Je suis même réfractaire aux techniques du numérique, parce que je trouvais que c'était un petit peu la triche. C'est vrai que j'avais des copains qui maîtrisaient déjà l'illustrateur, des choses comme ça. Et je me disais que ça simplifie un peu le process, quoi. Et c'est vrai que j'avais envie d'apprendre à me servir de mes mains, quoi.
D'accord. Alors, première étape peut-être importante d'un photographe amateur qui tout d'un coup prend un petit peu de lumière.
Oui, parce que donc j'avais commencé à déposer des photos sur Flickr. J'avais décidé déjà à l'époque de ne montrer que des images de Brest. Je venais de revenir à Brest après 4 ans de boulot chez Calipub à Quimper. Donc là-bas, je faisais que des enseignes peintes à l'aérographe. De fur en mesure, au fur et à mesure, il y avait de moins en moins de demandes, puisque c'était l'arrivée du numérique et de l'impression numérique.
Donc votre savoir-faire devenait obsolète?
À tel point que je ne faisais plus que de la pose d'adhésif là-bas. Je me disais, je vais peut-être pouvoir rentrer chez moi à Brest. Puis, si c'est pour faire ce métier-là, je peux le faire aussi à Brest, quoi. Et donc, j'annonce à ma patronne à l'époque que je vais quitter la société pour venir travailler à Brest. Et le lendemain, elle me demandait de démonter mon atelier de peinture.
Ah.
Parce qu'ils avaient déjà en tête, depuis un moment, de passer à la machine d'impression numérique aussi, quoi.
D'accord, ouais.
Donc j'ai démonté mon atelier de peinture à ce moment-là.
Vous avez anticipé le départ.
Voilà. Et après, donc, j'ai trouvé une entreprise plusieurs entreprises de signalétique et de décor à Brest, quoi.
C'est peut-être important de le dire aussi, vous venez aussi du monde publicitaire.
Oui, tout à fait, oui. Puisque lors de la formation de peintre décorateur, peintre en lettres, on apprenait aussi la lecture de la publicité et essayer de comprendre son fonctionnement, quoi.
D'accord. Donc, Donc, vous mettez des photos sur Flickr, il se passe quoi, non? Un moment?
Donc là, je suis contacté par une association, Crimes of Mind. Donc là, on est en 2010. Et ils vont faire venir des street artistes à Brest pour réaliser des fresques. Et ils me demandent de prendre des photos des artistes et de la réalisation des fresques. Et des fresques une fois qu'elles sont réalisées. Donc comme je viens de ce domaine-là, de la peinture, j'y vais volontiers. Donc en tant
que, oui, en plus ça vous parle, ce milieu.
Ça me parle et j'y vais en tant que bénévole, quoi. C'était une association qui était subventionnée par la mairie. Et puis, ils vont me contacter, la mairie va me contacter parce qu'ils ont envie de parler du projet. Et je vais vendre mes premières photos comme ça.
D'accord. Donc vos photos sont repérées et apprécié de la mairie de Brest,
oui, par la mairie de Brest. Ils m'ont recontacté par la suite, et puis j'ai commencé à faire mes premières piges.
D'accord.
Je restais salarié quand même.
Là, on est en 2003, 4, je ne sais plus. Enfin, c'est pas grave.
Ouais, on est en 2011, ouais.
2011, ok, ouais. Et donc là, ça fait pas encore tilt, parce que bon, ça suffit pas pour faire un métier.
Non, ça met un peu de beurre dans les épinards. Ça me permet aussi de commencer à apprécier aussi cette... Je découvre aussi le reportage, des choses comme ça. Et puis c'est vrai que je prends énormément de plaisir à le faire.
Donc la confiance aussi peut-être.
La confiance aussi. Ouais. Après, en plus, on m'envoie faire des sujets qui m'intéressent. Je me souviens, le premier, c'était d'aller photographier Astropolis. Et c'est vrai que en tant que festivalier, c'était chouette d'y aller pour travailler, quoi.
D'accord. Alors peut-être deuxième petit événement, enfin reconnaissance dans ce parcours de photographe.
C'est à cette époque-ci que je vais voir apparaître un concours organisé par la FNAC.
Oui, on a les photos sur la table. Donc. Ouais.
Et la thématique du concours, c'était « Qui êtes-vous ?». Donc je vais présenter un triptyque inspiré d'une citation de Gainsbourg qui est « Le masque tombe ». L'homme reste et le héros s'évanouit. Donc ça fait trois photos articulées autour de cette phrase. Donc je vais me prendre en photo, en autoportrait. Sur le premier photomontage, j'enlève comme un couvercle la face de mon visage pour laisser apparaître mon visage, mais de manière neutre.
Oui, c'est comme un masque neutre, oui.
Sur la seconde, c'est un petit peu spécial. On me voit allongé sur une table, endormi ou mort, puisqu'on voit mon âme sort de...
Il y a une couleur de morgue, ouais.
Un petit peu, ouais. Je suis assez pâle sur la photo. Et sur la dernière, donc le héros s'évanouit. C'est une simple photo prise au cimetière Saint-Martin avec un chien errant que j'avais croisé.
Mais elle n'est pas si simple. Moi, je l'ai sous les yeux. Là, ce que je vois, c'est un chien qui regarde une tombe.
Ouais.
Et on a l'impression que c'est son maître qui est dedans. C'est que le chien est triste. Je ne sais pas comment vous avez réussi ça. Et c'était pas votre chien en plus.
Ouais. Il semblait triste. Hein. Il était en train de se promener seul.
Ça marche bien. Ouais. On voit l'absence. Ouais.
Et donc, je vais apprendre que j'ai gagné ce concours-là et je remporte à l'époque 3000 euros de matériel. Donc,
Par la FNAC, oui. Puis la FNAC, c'est ce qu'on appelle les grands comptes.
Donc, en fait, je vais commencer à avoir du matériel professionnel à partir de ce moment-là, quoi.
D'accord. Donc, vous pouvez voir des choses encore plus sophistiquées sur la lumière, sur la composition.
Ouais, avec,
sur...
des photos la nuit avec une meilleure sensibilité. Aussi avec ce type de boîtier, quoi. C'est énormément de possibilités que je n'avais pas avant, quoi.
D'accord. Alors, étape suivante.
Oui, l'étape suivante. Donc, il va y avoir, suite aux photos réalisées pour Crimes of Mind, on va faire une exposition au plateau des Capucins, qui était encore en travaux. En 2013, toujours, je vais exposer une série de portraits, toujours en lien avec le plateau des Capucins, puisque j'avais eu l'opportunité de photographier des anciens travailleurs du plateau. Donc ça, c'était en 2011.
Ce qui est intéressant, peut-être, c'est le moment où vous décidez de... Qu'est-ce qu'à un moment où vous basculez?
Là, ça commence à devenir sérieux, effectivement, puisqu'il y a des commandes qui commencent à tomber.
Mais vous faites encore l'autre travail.
Mais je suis encore salarié.
Ça devient lourd aussi, peut-être.
Ça va. Enfin, j'essaye. Je travaille principalement le soir pour traiter mes photos, mais comme je le vois pas comme un travail, je le fais naturellement.
D'accord.
Et le week-end, après, je peux faire des piges, effectivement, ou des reportages dont on m'a missionné, quoi.
Mais il y a un moment, il y a un client qui vous impose. C'est-à-dire, pour répondre à la demande, il faut que vous montiez une entreprise, c'est ça, hein?
Oui. C'est justement avec l'arrivée de la série de portraits des travailleurs du plateau des Capucins, où il va falloir que j'ai un numéro de siret. Ouais. Donc là, je me mets auto-entrepreneur à l'époque.
Et là, donc, vous démissionnez de vous...
Non, je reste salarié encore plusieurs années, là. Ouais.
Ah, vous avez parallèlement un travail salarié et une entreprise qui est en train de croître.
Voilà.
Avec un numéro de siret et la possibilité de faire des factures.
Voilà, tout à fait. Et en parallèle, donc, en 2013, je vais faire ma première exposition de photomontage. Je n'ai pas parlé d'avant d'une toute première expo qui était à la rue Saint-Malo. Et je présentais des photos de Brest. Donc ça, c'est la première des premières expos. Et en 2013, l'exposition Vision à la galerie Eupart. Je présentais la ville en photomontage ou pas, c'était pas automatique. Donc on va voir la ville sous les eaux.
On voit, ouais, moi j'ai le souvenir de voir la tour Tanguy plein dans la rade, c'est magnifique. Vous êtes fait repérer sur Brest aussi, enfin sur Brest et par vos photos sur Brest, c'est ça que vous disiez.
Ouais. Oui. En fait, c'était une volonté aussi, hein, puisque quand j'ai créé ce compte sur Flickr, l'idée était de ne parler que de ma ville. Au moins, ça me faisait une thématique et puis une ligne directrice sur mon sujet, enfin sur mon travail.
Ouais, puis bon, c'est sur place. Après, c'est une contrainte, mais toutes les contraintes sont productrices de création, c'est ce qu'on dit. Bon, là, on voit quelqu'un qui, c'est vrai, il sort pas d'une école, c'est pas son papa qui était photographe, donc ça monte tout petit, mais ça marche à chaque fois, vous allez plus loin, plus de technique, plus de reconnaissance, et à un moment, vous avez même le statut et le numéro de siret et la possibilité des factures. Peut-être avant d'aller plus loin, pour voir concrètement le boulot. On imagine, alors vous êtes à votre compte, donc vous n'allez pas faire une fiche de poste pour vous faire remplacer, mais imaginons, parti en vacances, et vous imaginez que quelqu'un qui vous ressemble existe. Donc vous faites une fiche de poste. Quelles seraient les tâches, les missions et les tâches du photographe auteur? Je précise photographe auteur parce que c'est ce qui est mentionné sur votre site et c'est un statut à vrai dire.
C'est un statut, hein, c'est ça. Ouais. Il y a deux différences en fait. Il y a le photographe artisan et le photographe auteur. Le photographe auteur ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Le photographe artisan va pouvoir faire les photos de famille, de mariage, les familles de photos de classe. Et le photographe auteur n'a pas la possibilité de le faire.
Ah, c'est vrai, mais ça enlève une énorme partie de boulot pour le photographe. Beaucoup font des photos de mariage, justement.
Ouais. C'est aussi pour ça que j'en ai quasiment jamais fait. Ou seulement pour dépanner des amis qui se mariaient.
C'est bien.
En général, quand il y a un mariage dans ma famille, je suis photographe aussi. Ouais.
D'accord. Donc là, ce serait intéressant de distinguer les différentes parties de votre métier.
Oui,
vous êtes
ça.
Devant un camembert là, qui est très clair, mais qui dit au, donc, allez-y, ouais, les
ouais,
pourcentages
bah,
attribués à chaque tâche. Ouais.
Bah, la prise de vue, ça représente, à mon avis, que 15% du temps de travail. En fait.
C'est ça, c'est parce qu'on imagine de loin. Ouais, ouais. Donc le photographe, il fait 15% de photos. Après.
Et après, il va y avoir la post-production des images, l'indexation des images pour la photothèque, puisqu'il faut pouvoir retrouver ces images. Actuellement, j'ai pas loin de 200 000 images sur ma photothèque. Si un client m'appelle et qu'il me demande une image réalisée en 2013, il faut que je la trouve rapidement. Donc,
ouais, ça, c'est un travail de bibliothécaire. 200 000 documents, c'est ce qu'il y a dans notre bibliothèque, là, à l'UBO, je crois.
Ça nécessite beaucoup d'organisation. Et on va avoir aussi la réalisation de devis, de facturation, de la comptabilité, quoi.
Et ça, ouais, ça vous tombe dessus, c'était peut-être inattendu, la comptabilité. Or, ça prend une part.
C'était pas ma spécialité, effectivement. Donc,
bon, bah, ça va, vous avez simplement appris le fonctionnement d'Excel ou vous êtes.
Même pas. Au début, je faisais mes factures sur Photoshop.
quand
j'ai eu ma première comptable et que je lui ai montré mes factures, elle me dit : « Vous faites quand même pas ça sur Photoshop ? » Je dis : « Ben si. » Et
d'accord.
Depuis, j'ai d'autres solutions, effectivement, qui permettent de gagner du temps. Et. Après, il va y avoir des rendez-vous avec des clients ou avec des futurs clients, avec des fournisseurs pour le matériel. Et puis autrement, il va falloir faire de la veille numérique sur les réseaux sociaux, sur divers sites, que ce soit au niveau du matériel, les évolutions des logiciels et sur les travaux d'autres photographes aussi, observer un petit peu ce qui se fait, quoi.
D'accord, la partie commerciale, bon,
on n'a pas évoqué la démarche personnelle aussi qui représente
oui, c'est
aussi
ça, ouais,
20%, on va dire, où je fais des photos pour moi. C'est des images qui ne sont pas forcément diffusées non plus. Et,
c'est votre partie recherche.
Recherche, on va dire.
Recherche artiste qui est absolument nécessaire pour aller vers de l'avant. Pour aller de l'avant et...
bah, c'est ce que je préfère faire après.
Et en plus, qui peut se concrétiser en vente, en tirage peut-être.
Ça peut aussi, ouais. Et il faut, pour ça, il faut avoir des lieux de vente. Donc, soit des galeries, soit des boutiques en ligne aussi. J'en ai une sur mon site.
Là, on va arriver, bon, je repose peut-être la même question finalement, mais enfin de manière beaucoup plus précise peut-être sur l'expression. Je parle de l'expression « c'est un métier ». C'est un métier.
Ouais.
Quelqu'un qui vous dit « ouh là là, ouais, bah, c'est un métier ». Il faut savoir le faire, quoi. Ça met en avant des connaissances, des savoir-faire, des habiletés, des gestes. Donc quels sont, pour votre métier,
à mon avis, il faut avoir
ces habiletés très particulières du photographe, ouais, ces savoir-faire.
Il faut avoir de la sensibilité, que ce soit sur le cadrage, sur la composition, sur. Il faut savoir observer la lumière. Il faut être patient aussi, polyvalent. Donc c'est plein de, comme pour d'autres métiers en fait. Hein. Mais c'est vrai qu'en photographie, ça va être sur le rapport à l'image et tout ça qui doit être aiguisé au fur et à mesure, quoi.
Puis il y a un rapport, enfin la dernière fois on avait développé là-dessus, sur le temps réel, c'est-à-dire vous arrivez sur le... On prend un exemple, vous arrivez prendre une photo d'éolienne sur le chantier Engie, c'est pas rien, énorme entreprise, énorme éolien, c'est haut, il y a du monde partout.
On arrive sur site, on ne sait pas exactement comment ça va se passer.
Et là, quelquefois vous faites de la reconnaissance, si vous n'en faites pas, il faut saisir l'instant, voir où les gens vont aller, ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qui se passe là? Il y a une panique au contraire, non?
Après sur un suivi de chantier en général, on ne nous laisse pas tout seul...
En plus,
donc pour des raisons de sécurité, on peut être accompagné. Donc, moi, c'est le meilleur moyen aussi d'être informé sur ce qui va se passer. Mais il y a des fois aussi où je suis autonome et puis il faut savoir observer effectivement et anticiper les déplacements et savoir écouter, avoir toujours une oreille qui porte pour s'assurer que la grue va tourner vers la droite ou vers la gauche ou des choses comme ça.
Ouais, c'est beaucoup de concentration. Moi, je vous ai vu travailler sur un bateau, il n'y a pas de place. Bon, il faut aussi savoir...
Avant même de monter à bord, on observe un petit peu comment on va pouvoir se déplacer.
Alors, ça,
en l'occurrence, on était quand même assez nombreux sur le bateau.
Ouais, un bateau de 9,50 m, on était 4, ouais, c'était bon. Et le résultat, est, enfin, c'est, il est même visible donc, sur l'exposition In Vivo à l'UBO. C'est super ce résultat. Ouais. Je vous ai vu travailler aussi sur le verrier de l'UBO, donc sans visite préalable. Ouais. Donc là, quand même, ouais, il faut vraiment savoir. Le verrier, vous ne l'avez jamais vu avant, vous arrivez, il faut faire les 10 photos qui caractérisent ce travail. C'est pas si évident. Ouais.
Bah en fait, on a eu un moment d'échange. Je lui ai demandé de m'expliquer sa profession. Oui, on a fait un tour de l'atelier. Et à partir de là, on a fait des mises en scène, puisqu'en fait, je lui ai demandé de fabriquer des pièces ou d'utiliser des tubes et de les fondre et d'utiliser les chalumeaux, les choses comme ça, quoi.
Dans le métier, il y a aussi, surtout la façon dont vous l'exercez, la composition. Parce que c'est très composé. Alors là, quel est le savoir-faire ? Enfin, comment on le développe ? Comment on l'acquiert ? Comment
Il y a
presque un travail d'artiste peintre, non ?
Oui, c'est ça. Bah, c'est des choses qu'on m'avait déjà enseignées quand j'étais à Vitré, dans le décor peint en trompe-l'œil. C'est vrai qu'on avait plusieurs cours sur la composition, sur les règles des tiers. Et en fait, il y a des règles effectivement qui permettent de donner une image plus riche dans la composition et orienter le regard de la personne sur le sujet. Il faut réussir à promener le regard du spectateur. Et c'est ce qu'on fait en...
Il faut prendre ce regard, il faut l'amener, il faut raconter une histoire d'une certaine manière, avec un hors-champ. Un peu comme au cinéma, peut-être.
En publicité, il y a la lecture sur une affiche, il va y avoir la lecture en Z, où le regard va se promener souvent du haut de l'affiche à gauche, il va descendre pour faire une forme de Z. D'accord. Et c'est vrai que en photo, c'est pas forcément comme ça qu'on le fait, mais c'est vrai que j'avais pris l'habitude effectivement de promener le regard du spectateur dans l'image.
Là, j'ajoutais une question. petite question bateau, mais bon, définition d'une bonne photo, il y a 1000 définitions, j'imagine, mais...
Il faut qu'elle provoque une émotion sur le spectateur, enfin, sur la personne.
C'est ça, elle doit avoir un effet, ouais.
Parce qu'en fait, que la photo soit nette, c'est pas obligatoire, que la photo soit... Il n'y a pas vraiment de règles, hein. Enfin, il y a des grands photographes... Qui n'ont pas tenu compte des règles des tiers et des choses comme ça, et ça fait des images très riches en contenu et en composition. Donc, c'est vrai que si on veut faire de la photo, photo publicitaire, entre guillemets, on va essayer de respecter certains codes sur de la photo d'auteur.
Oui, ça dépend de la photo, effectivement, que vous faites. Ouais. Ouais, mais globalement, c'est l'effet, c'est un point d'entrée ça, pour mesurer ce qui se passe, quoi.
Moi, en fait, hein, je regarde si elle me procure une émotion ou si je la sweep, je la fais.
Ça faut qu'elle interpelle, ouais. Alors, puisque c'est bon, l'émission porte sur les boulots. Hein, voilà, de plus en plus, les fiches de poste comprennent aussi la rubrique savoir-être. Alors, toujours, vous cherchez un remplaçant, vous définissez c'est quoi votre savoir-être spécifique de photographe.
Il faut être avenant, faut rester calme. Quand ça ne va pas comme on veut, faut pas, on pourrait mettre mal à l'aise le sujet.
Il faut presque disparaître, c'est ça ?
Voilà, savoir se faire discret. C'est vrai que j'apprécie quand un client me dit qu'il ne m'a pas vu de la journée, c'est que j'ai su être discret. Ouais.
Moi, j'ai travaillé 2 fois avec vous, c'est un peu ce qui s'est passé, on vous oublie. Ouais.
Ah ouais, ça fait partie du job, effectivement.
C'est pas facile, hein, surtout quand les espaces sont assez restreints, contraints. Enfin. Pour aller plus loin sur le métier, là, on voit quelqu'un au travail, on voit comment y arriver. On va essayer de voir les gens qui sont autour de vous. Bon, vous êtes solitaire dans votre travail, mais pas totalement, puisque sinon vous n'existeriez pas. Quels sont vos principaux interlocuteurs ?
Je vais me retrouver à travailler en amont, avant le jour du shooting, avec soit des agences de communication, ici à Brest c'est souvent avec d'une idée l'autre, ou ça va être le service de communication d'une collectivité, d'une mairie. Et on va discuter du sujet aussi et de la ligne éditoriale à conserver dans les images, quoi. Souvent, je vais regarder aussi ce qui a été fait auparavant avec d'autres photographes pour ce même client.
D'accord.
Et,
ouais.
on va essayer de, s'il le faut, on va essayer de garder un petit peu cette homogénéité aussi.
Ça, c'est les premiers. Après, sur place, vous pouvez discuter avec le chef de chantier ou
aussi, ouais.
Enfin, selon les sujets. Ouais.
Ouais. Mais en amont, effectivement, au bureau, il faut savoir un peu.
Il y a beaucoup de travail au bureau.
Ouais, c'est ça. Je vais aller regarder un petit peu l'histoire de l'entreprise, des choses comme ça. Puis ça me permet de mieux m'immerger.
C'est ça, on n'arrive pas comme ça, la bouche en cœur.
Non, non,
non. On sait où on arrive. Ouais.
Quoique des fois, je ne suis pas toujours au courant de ce qui va se passer. Hein. C'est vrai que je ne sais pas exactement à quoi va ressembler le lieu de prise de vue. Donc on n'a que. Parce que des fois, ben, ça va être pour faire un portrait. La personne n'a pas grand temps à me donner. Donc ça va être. J'ai 20 minutes.
Oui, les gens ont leurs propres contraintes, ils sont pressés,
voilà.
Aussi. Ouais, ouais.
Et j'arrive sur site et il faut que je trouve l'angle de vue qui va bien et ça va souvent très vite. Ouais.
L'émission s'intéresse à la fois à l'épanouissement du boulot. Alors on commence par les bons boulots, comme ça c'est plus facile. Mais donc, mais les bons boulots ont aussi le revers de la médaille. Mais avant d'aller sur le revers de la médaille, la question de l'utilité, c'est quelque chose d'important dans un travail. Enfin, moi, j'étais bibliothécaire. Voilà, mon travail, je le sentais utile et ça me donnait parfois l'envie de travailler. Enfin, parfois, ça me donnait l'envie de travailler. Ouais. De quelle manière l'utilité, vous percevez l'utilité dans votre boulot quelle est l'utilité d'un photographe et comment la perçoit-il?
Pour ma part, j'aime bien faire le focus sur les gens de l'ombre, que ce soit des gens à leur travail ou dans la vie du quotidien, des gens qui font beaucoup pour la société qu'on ne voit pas forcément. Quoi.
Ah oui, le héros ordinaire qu'on a vu pendant le Covid, notamment.
Aussi, ouais, comme les séries que j'ai pu réaliser pendant le confinement.
Oui, vous travaillez beaucoup sur le travail, c'est vrai, ouais. Sur les gestes des gens qui travaillent.
Des savoir-faire, des choses comme ça, des entreprises aussi. Donc, c'est vrai que c'est gratifiant de savoir qu'on met en avant une personne.
Oui, qu'on ne verrait pas sans la photo. En fait.
Oui, c'est ça, tout à fait.
D'accord. La dimension économique d'un travail, on en parle très peu forcément, c'est compliqué de parler d'un salaire, etc. Mais elle a son importance, d'autant plus qu'on est à son compte.
Mmh.
C'est tout le problème des photographes, ou des artistes d'ailleurs. Sinon, n'importe qui serait photographe ou artiste. Et j'ai relevé une citation d'Olivier Kuhlmann, donc, qui est un photographe reconnu, donc qui a priori n'a pas de problème. Sauf qu'il dit « La photographie va très bien et les photographes très mal ». Bon, c'est pas vrai, mais c'est vrai aussi. Alors, quel est le prix d'une photo? Ça serait la question un peu choc dans une émission choc. Mais comment se fait payer un photographe? Comment il récupère, enfin comment il en fait, quel est votre business model?
Il y a plusieurs possibilités. Soit ça va être au temps passé, donc c'est des piges en fait de 1 heure, 2 heures, 4 heures, la demi-journée. Et après on peut aussi vendre la photo à l'unité pour un sujet. Donc ça va dépendre aussi de la diffusion de l'image, si elle est diffusée en grand format ou si c'est un quart de page dans une revue. On ne la vend pas au même prix.
D'accord. Parce que moi, hier, j'étais sur SnapMob. SnapMob, c'est un système Uber qui permet de mettre en contact. Vous êtes devant la Tour Eiffel, vous voulez faire prendre en photo avec votre femme.
Ouais.
Cliquez sur l'application et vous trouvez un photographe qui va vous vendre une photo. Le prix d'un café, c'est la pub.
Cette appli-là, je ne la connais pas. Mais
il y en a une autre qui s'appelle Miro. Comment faire face à ça, ouais.
Ouais, en fait, on parle des banques d'images aussi.
Oui, il y a aussi les banques d'images, voilà, ouais. Où les photos sont achetées parfois 1 euro, c'est ça, hein.
Ouais, j'ai eu l'occasion de travailler dans mes débuts pour Wonderbox, par exemple. Et effectivement, c'est un petit peu la ubérisation de la profession. On peut le faire pour commencer. Ça peut être un bon moyen pour apprendre et pour pratiquer. Mais je ne pense pas que ce soit un modèle intéressant à long terme, puisque en fait, on n'est pas très bien payé.
Bah c'est ce que j'ai vu. Après, j'ai regardé un reportage, enfin un article, oui. C'est quelqu'un qui irait à fond sur cette plateforme, qui serait très bon photographe et qui travaillerait 12 heures par jour.
C'est comme les
par jour, tous les jours, il arriverait à faire 1000 euros par mois. Quoi.
C'est ça, mais en fait, avec ce genre de modèle, on va toucher le SMIC si on bosse tous les jours et qu'on ne prend pas de vacances. Oui. Et,
à un moment, ça ne marche plus. Hein.
Non, ça ne marche plus. Et en photo, effectivement, on commence à avoir ce genre de pratique.
Comment se distinguer? Alors, par le savoir-faire, peut-être, tout simplement. Hein.
Ben, je me rends compte que mes clients reviennent vers moi en me disant on ne veut pas d'images de banque d'images, parce qu'en fait, c'est des images assez lisses. Il n'y a pas vraiment l'âme, j'imagine. Un sculpteur, il ne va pas prendre une photo sur les banques d'images parce que ça ne sera pas son atelier. Ça sera
il
pas
va un regard, une subjectivité.
Voilà, et ça aura plus de sens, effectivement, de faire photographier sa société sans prendre des images sur une banque en ligne, quoi.
Alors maintenant, pour essayer de voir un peu comment les choses évoluent, sur la photo, ça a été gigantesque, hein. Il y a eu l'argentique, le numérique, les réseaux, les plateformes, le droit, enfin, je vous laisse en parler. Donc, quelles grandes évolutions sont en cours et qu'est-ce que le photographe a y gagner et puis aussi à y perdre, hein. Voir à être ce que le métier peut être dévalorisé ou pas. Qu'en pensez-vous, hein? Et à partir d'une évolution bien marquée, par exemple. Je ne suis pas clair. La dernière fois, vous m'avez parlé, vous aviez comparé le métier de photographe au métier de musicien.
Oui.
Ouais. Qui est le musicien qui, aujourd'hui, avant, il vendait des disques, il faisait les concerts. Maintenant, s'il ne fait plus de concerts...
Oui, c'est un petit peu ce qui se passe en photo aussi, sauf qu'il y a eu un décalage parce que...
Vous parliez du pillage, en fait. Oui,
ouais, c'est ça. Bah, le pillage, effectivement, les photographes le vivent assez régulièrement.
Et qu'est-ce que la technologie a à voir là-dedans?
Parce qu'il suffit de faire un clic droit et télécharger sur les réseaux. Et c'est vrai que ça a pas aidé forcément ça a pas aidé la profession. En même temps, on a une visibilité sur les réseaux qui n'est pas négligeable. Qu'on n'avait pas avant. Donc,
On peut revenir là-dessus, parce que vous m'aviez fait une distinction sur les différents réseaux sociaux. Mm. Vous avez identifié des publics différents sur les différents réseaux, et derrière, vous mettiez des photos différentes pour vous adresser à différents publics, c'est ça, hein?
Oui, sur Instagram, je vais déposer plutôt des images en lien avec mon travail d'auteur, justement, puisque actuellement, je mets pas mal d'images de mon quartier. C'est une nouvelle thématique j'ai juste qu'à sortir de chez moi pour photographier les habitants, pour photographier des lumières, de l'architecture. Et après, sur LinkedIn, je vais parler plus de mes travaux de commande, donc des suivis de chantier, des choses comme ça. Et sur Facebook, c'est le réseau sur lequel je suis depuis le plus longtemps, donc sur Mathieu Legal, photographe. Et là, je vais parler de Brest à travers ses événements et aussi à travers son architecture, comme j'ai toujours fait, en fait. Mais en fait, sur chaque plateforme, on a une communauté qui nous attend aussi sur un type d'image, quoi.
Donc tout ça, c'est plutôt positif. Bon, le problème, c'est quand même le pillage qui est dû à la façon, le rapport aujourd'hui au droit d'auteur, peut-être.
Oui, il y a ça aussi. On ne peut plus photographier quelqu'un. Enfin, ça fait déjà un moment, mais c'est vrai que là, j'ai remarqué que c'était assez
compliqué. Surtout avec les enfants, oui. Ouais.
Ouais. Donc souvent, les parents sont assez réticents. Ils viennent me voir, ils me demandent « c'est pourquoi ? Qu'est-ce qu'on va en faire ?» En parallèle, je m'aperçois que les parents, ils mettent des photos de leurs enfants quotidien sur les réseaux. On se demande... En fait, les gens ont envie d'avoir, ils ont envie d'avoir le contrôle de leur image et de l'image de leurs enfants, quoi. C'est surtout ça.
Sur ce sujet, il y a eu un procès qui a fait un peu de bruit parce que c'était un groupe de rock, le nom m'échappe, mais très 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 connu, aussi connu que les Stones peut-être.
Nirvana avec...
avec un bébé.
Avec le bébé, oui.
Les parents, ou le bébé lui-même, une fois grand, a demandé les droits d'auteur.
Oui, il n'a pas réussi.
Non, les droits à l'image, ouais, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi, heureusement.
Son procès n'est pas passé, mais...
Il a essayé, oui.
Ouais, ça va passer un peu à l'américaine, quoi, mais...
C'est sûr, oui. Enfin, on voit, ça devient difficile, oui. Pour essayer de synthétiser la question, puisque ça fait partie de l'émission, épanouissement, aliénation. Je ne vois pas beaucoup d'aliénation dans ce que vous faites, mais Tout simplement de vous êtes Mathieu Le Gall il y a 15 ans, de Mathieu Le Gall aujourd'hui, et l'épanouissement se définit par la façon dont un travail vous transforme. Moi, je sais, j'ai fait des tables rondes, par exemple, ça m'a appris à faire dialoguer des gens, etc. Ça, c'est l'épanouissement, mais il y a aussi peut-être de l'aliénation, notamment quand on essaie de vendre. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce couple aliénation-épanouissement sur votre travail ?
L'épanouissement, ça va être dans les rencontres et sur certains sujets, enfin sur beaucoup de sujets, en fait, où je n'aurais pas forcément été sur ces lieux-là par moi-même. Et je me retrouve, comme l'autre jour, à faire des photos de l'ensemble Mathéus au plateau des Capucins, et j'écoute pas beaucoup de musique classique, et puis j'ai trouvé ça génial, la musique était vraiment de très bonne qualité, certaines expositions aussi où j'ai dû faire des photos, et j'étais très content d'avoir pu découvrir le travail de ces artistes là
en fait, votre métier est un véhicule pour rencontrer les gens et aller même au cœur de ce qu'ils font, parce que vous avez un rôle là-dedans, et du coup, ils vous racontent, enfin, vous les approchez.
Ouais, c'est,
quoi.
Ça. Ouais, c'est ça. C'est le fait de pouvoir approcher des gens qu'on n'aurait pas rencontrés sinon. Ça, c'est le point fort. Dans l'aliénation, je sais pas.
C'est un terme énorme qui ne correspond pas à votre métier, mais voilà.
Mais il y a des sujets qui sont un petit peu plus alimentaires, qui peuvent être assez répétitifs, où on va faire la même chose.
Ouais, c'est ça, ouais. Vous avez l'air de vous en sortir. Enfin, en tout cas, je sais pas comment ça a été. Peut-être il y a 10 ans.
Il y a des fois, c'est pas toujours marrant. Je me souviens avoir. J'ai dû photographier une départementale, la 778, et c'était le suivi des travaux, quoi. Donc, je suis retourné 7 fois sur place, mais c'était. C'est des tracteurs au bord de la route, et d'un moment, on a fait le tour. Donc,
c'est sûr. Oui, c'est la question de l'alimentaire. Je pense, selon les individus, c'est différent. Vous arrivez à être reconnu pour votre savoir-faire spécifique. Moi, ça me fait penser à des comédiens qui finissent chez Walt Disney, par exemple. Un parc Walt Disney pour avoir le cachet.
Le but à long terme, c'est de choisir ces sujets, quoi. D'éviter l'aliénation.
Peut-être pour conclure, on imagine, on va donner des conseils aux jeunes. Bon, ce n'est pas une émission, on n'est pas à l'ONICEP, hein, mais malgré tout, profitons d'avoir un photographe pour qui ça, quand même, ça, on va dire ça. Ça voilà, vous commencez à.
Ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant, que je suis à mon compte. Donc,
Et globalement, vous faites à peu près ce que vous voulez. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui a déjà touché un appareil photo, ça lui plaît
Et qui voudrait se lancer.
Qui voudrait se lancer avec tous les obstacles, puisque là vous êtes assez modeste, mais il y a énormément d'obstacles qui vous êtes passés à côté. Quel conseil lui donner
Je conseillerais déjà de ne pas quitter son job de suite.
Prudent.
Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Je suis
conseil
resté,
de père de famille.
J'ai dû rester 5 ans à cheval sur deux métiers.
Ça durait 5 ans seulement, d'accord. Enfin, c'est beaucoup, 5 ans en même temps, hein, parce qu'il faut aussi...
Et la dernière année, je me suis mis à mi-temps. Donc vraiment, j'ai pris le temps de...
D'accord.
Ça rendait service à mon patron de l'époque aussi. Comme ça, je partais en douceur. Il a eu le temps de chercher quelqu'un d'autre. Et puis, ce que je vais conseiller aussi, c'est... de pas dépenser des fortunes dans le matériel dès le départ.
C'est important. Moi, ça m'a servi. Quel est le conseil je veux acheter un appareil photo. Quel est le conseil
Il ne faut pas hésiter à surtout actuellement, se tourner vers le parc d'occasion. Puisqu'en fait, la qualité du parc d'occasion en photographie n'a jamais été aussi bon. On commence à trouver de très belles optiques à des prix très raisonnables.
Mais ce que vous disiez aussi, c'est que ce n'est pas la peine d'acheter un appareil qui a des fonctions qu'on ne sait pas encore utiliser, qu'on n'utilisera pas. C'est ça, il faut progressivement découvrir des besoins supplémentaires qui amènent...
En général, on change de matériel quand on ne peut pas faire quelque chose, une technique à laquelle on est arrivé. Et on se dit, le boîtier est à sa limite, il va falloir changer.
C'est ça, arriver aux limites, mais il faut aller percevoir les limites déjà,
Et s'intéresser aussi à... C'est important de s'intéresser à l'histoire de la photo, savoir ce qui s'est passé, et lire des livres. C'est important.
Oui. Ouais. Bien, merci à Mathieu Le Gall, donc photographe auteur. Si, Si ces photos vous intéressent, en tapant le nom, hein, pourtant Le Gall, ça c'est assez fréquent, mais Mathieu Le Gall, photographe, éventuellement Brest en plus, on voit votre travail, notamment sur Brest, bon, Le Verrier, moi, on a travaillé ensemble, moi, ça m'a beaucoup plu.
Il y a les réseaux sociaux, il y a mon site aussi avec la banque de, avec la vente de tirages en ligne. J'en ai pas beaucoup parlé, donc c'est l'occasion. Et l'expo, enfin j'ai des photos en vente aussi chez OVNI à l'Octroi, rue Jean Jaurès.
Eh bien, à la semaine prochaine, merci.
Merci Hervé.
Prochain portrait, prochaine histoire, prochain métier, au prochain numéro de Un bon boulot, témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail.